notre invité, il est là.
Oui.
Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, comment allez-vous?
Ben, très bien, vous, et vous autres?
Ben oui, ça va bien, mais là, tu sais, je regarde les villes qui cherchent de l'argent. On parlait de la Ville de Québec qui cherche 5,5 milliards pour les prochaines années pour entretenir ses infrastructures. Il va manquer 3,5 milliards. C'est comme ça, à grandeur du Québec. Donc, est-ce qu'on construit trop? Est-ce que les villes voient trop loin? Comment on peut analyser ça du point de vue du contribuable?
Ben oui, d'un, les villes dépensent trop, puis ils planifient mal, puis par-dessus le marché, quand ils perdent le contrôle, ils demandent aux autres de payer. Ben, c'est exactement ce que la Ville de Québec demande. Ils disent que au niveau des infrastructures, ça va leur coûter pas loin de 5,5 milliards sur les 10 prochaines années, puis ils sont juste prêts à investir 2 milliards. Donc, on se doute que le 3,5 milliards va venir des autres paliers de gouvernement comme Ottawa ou comme Québec. Mais à la fin, donc, c'est qui finance ça? C'est les autres contribuables. Pourquoi? Parce que la Ville de Québec a un peu perdu le contrôle sur sur le coût de ses infrastructures et sur ses dépenses. Et à la fin, ben, vous en avez quand même nommé plusieurs exemples de dépenses qui sont, relativement douteuses. Le coût du déneigement pour les pistes cyclables à Québec comme à Montréal, c'est une réalité qui est totalement ridicule. Mais aussi, c'est bien de rappeler que les villes se sont targuées cette année de dire « inquiétez-vous pas, on va maintenir l'augmentation des comptes de taxes en dessous ou sinon au même niveau que l'inflation ». Mais ça a été très bien qu'ils fassent la même chose pour leurs dépenses. Parce que la Ville de Québec, les dépenses ont quand même augmenté de 4,1% par rapport au dernier budget. On est au-delà de l'inflation. Et pourquoi? Mais pour plus de services. Sous le couvert de dire qu'on va offrir plus de services.
Mais c'est pas vrai. Les services diminuent. Les services diminuent, puis les dépenses en n'importe quoi augmentent, là.
Exactement. Puis ça, c'est une réalité qui est à peu près pareille dans un trop grand nombre de municipalités. Puis moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est que cette année, comme à toutes les quatre ans, ou à peu près, on est dans une année électorale. Puis on sait que l'Union des municipalités du Québec et la plupart des villes demandent plus d'argent essentiellement. Donc, ça va être le moment pour eux le moment ultime de faire pression sur les différents partis politiques en espérant avoir des concessions en octobre quand il y aura un changement de gouvernement s'il y a lieu. Donc, c'est ce qui me dérange beaucoup. Puis là, à la fin, c'est aussi de voir le coût des infrastructures. Quand on dit 5,5 milliards sur 10 ans, puis on a 15% des infrastructures qui sont jugées vétustes.
Oui.
Je pense que c'est assez problématique. Ça démontre qu'il y a peut-être d'autres priorités qu'un tramway à Québec. Mais bon, dans tous les cas, Bruno Marchand s'attend à ce que ce soit les autres qui payent pour.
Ben c'est ça. Il veut que tout le monde paye pour lui, mais dans le fond, c'est le même contribuable qui est mis à contribution. Là. Si lui dit, moi, je capte que le projet tramway coûte 10 milliards, 15 milliards ou 5 milliards, moi, je mets juste 750 millions, mais ça serait les autres paliers qui vont payer. C'est quand même moi, de ma poche, contribuable, qui va payer pour ça. On semble jouer un drôle de jeu, là.
Exact. Ben, essentiellement, oui, les gens de Québec, vous payez essentiellement trois fois parce que vous payez à la fois en tant que contribuable de Québec, mais aussi en tant que contribuable du Québec et du Canada parce que, bon, vous payez des impôts à tous les paliers comme tout le monde. Mais il n'en reste qu'au final, ça démontre qu'il y a vraiment un manque de sens des priorités de la part de la mairie qui a quand même reçu, je veux dire, ils ont un mandat clair, là, les dernières élections l'ont démontré, mais il faut qu'ils reviennent à la table à dessin. Là. Je veux dire, je regardais les derniers efforts d'optimisation de la ville pour réduire les dépenses et ça efface pas du tout l'augmentation des dépenses qui est au-delà de l'inflation. Il y a un problème, mais malheureusement, on a des rêves de grandeur qui sont déconnectés de la réalité et qui vont peut-être juste faire augmenter drastiquement le coût des infrastructures au cours des prochaines années.
On le voit à Montréal, là, les déneigeurs, notamment les déneigeuses, toute la quincaillerie, on n'a pas investi là-dedans dans les dernières années. On a de la misère à déneiger les rues, les nids de poules, même chose. Donc, les villes qui investissent dans leurs infrastructures, mais surtout dans leur quincaillerie, leur déneigeuse et tout. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des gros problèmes là. Il y a des constats qui sont quand même troublants. Là. On a dépensé l'argent ailleurs et là, on n'est même pas capable de répondre aux besoins de base.
Non, exact. En plus, je pense que Montréal est encore pire parce qu'ils ont réussi à refiler une augmentation du compte de taxes et au-delà de l'inflation. L'augmentation des dépenses est au-delà de l'inflation. Ils disent qu'ils font un effort pour optimiser les dépenses puis justement faire des coupures là où c'est possible au niveau des postes administratifs. Puis finalement, ils se contentent de très peu. Et pendant ce temps-là, pendant que l'état des routes, des rues, carrément, là, je veux dire, dans certains endroits, ça ressemble à Bagdad en 2003.
Là,
c'est vraiment... C'est au point où est-ce que même la mairesse de Montréal, hier, a pogné un flat avec sa voiture. En fait, pas un flat, deux flats. Ils ont dû, la voiture de la mairesse de Montréal a été remorquée hier à cause des nids de poules de Montréal. Je pense que l'ironie est palpable. Mais malgré tout, ils augmentent les dépenses dans les pistes cyclables. Ils vont construire une piste cyclable au coût de 30 millions de dollars sur le bord du REM à Montréal. Alors on se dit, mais voyons, c'est peut-être que cet argent-là il aurait pu aller justement dans la voirie, mais bon, que voulez-vous? Des fois, on s'attend à ce qu'un changement d'administration municipale, ça amène beaucoup de changements, mais dans ce cas-ci, c'est pas tout à fait le cas. Mais on va donner une chance aux coureurs, et pour l'instant, les villes du Québec ont pas mal tout le même problème. Puis le problème aussi, c'est que leur ultime solution, c'est de demander aux autres gouvernements, comme ils font à chaque élection.
Mais c'est quoi la déconnexion des élus envers le peuple? Les gens demandent juste avoir des services de qualité de base, puis le reste, laisse-moi de l'argent dans mes poches. Mais c'est pas ça qu'on voit.
Ben, non seulement c'est pas ça qu'on voit, mais il y a aussi beaucoup de gaslighting là, là-dessus, parce que on entend souvent le terme on fait preuve de rigueur, inquiétez-vous
pas. C'est pas
vrai, pantoute. On fait un ménage d'indépenses, puis finalement, ben, quand on regarde l'état des choses, c'est vraiment pas ça qui se passe. Là. Je veux dire, peut-être qu'il y a un effort à quelques endroits pour dire, oh, on va améliorer certaines communications, on va alléger certaines petites paperasses ici et là, mais dans l'ensemble de l'œuvre, les choses empirent, là, à peu près à tous les égards. Donc, puis oui, ben, la déconnexion, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Puis ça, c'est quelque chose qu'on voit trop souvent dans le milieu municipal, c'est qu'on a l'impression que les administrateurs municipaux se voit comme étant pourvu d'une mission, en fait, là, comme si c'était une mission de grandeur, de changer la ville, de la métamorphoser.
Ouais, on avait des Valérie idéologies Plante. Aucun rapport avec comment gérer des taxes, là.
Ben, exact, là. Je veux dire, il y a une différence en disant, OK, moi, je me dis, j'ai reçu un mandat pour métamorphoser ma ville avec des projets d'infrastructure qui dépassent, mettons, le. Tu sais, c'est même plus une question de rêve, c'est une question d'imposer une idéologie. Puis au-delà de ça, ben, je pense qu'il y a des contribuables moyens. En général, ils s'attendent pas à des projets de grandeur, là. Ils s'attendent plutôt à ce que la voirie soit prise en charge, que les vidanges soient ramassées, que le déneigement soit fait. Puis oui, qu'il y ait quelques pistes cyclables, c'est pas la fin du monde. Mais quand c'est priorisé par rapport aux infrastructures plus critiques des automobilistes, notamment, c'est là que les gens commencent à avoir un peu un problème. Puis qu'on est rendu à parler d'exproprier des gens pour imposer un projet que la plupart des gens ne veulent pas dans une ville, pour citer encore une fois le cas de Québec, ben je veux dire, c'est quand même très problématique. Mais encore une fois, on pourrait chialer longtemps là-dessus, mais les gens ont un peu voté pour ça en même temps. Donc, éventuellement, il va falloir que les gens soient un peu conséquents par rapport à tout ça. Là.
Voilà. Là, si on saute au fédéral, un projet informatique qui devait coûter à l'époque 1,75 milliards est rendu à 6,6 milliards. On n'en parle pas beaucoup, hein? C'est loin, Ottawa, hein? C'est l'autre bord de la Gatineau, t'as la rivière des Outaouais, puis là, après ça, t'as Ottawa.
Ben c'est ça, c'est le fameux projet Curam, je pense, qui se retrouve finalement être le saclic du gouvernement fédéral, quoi que.
Il y a eu pas mal des saclics au fédéral, là.
Oui, ben ça serait peut-être une petite liste non exhaustive. On a eu, entre autres, bon, le projet de Phoenix qui était supposé coûter 300 millions et que selon certains fonctionnaires, en date de 2025, là, on parle de pas loin de 5,1 milliards que ça a coûté. Pour l'intégration, puis aussi régler tous les problèmes qui venaient avec, parce qu'on sait que ça a duré quasiment 10 ans, là, les déboires liés à Phoenix, puis c'est pas tout à fait terminé dans certains cas. On a aussi le projet Arrive-Can, qui était supposé coûter 80 000, puis qui en a coûté 60 millions finalement. Puis on se rappelle aussi du registre sur les armes à feu du gouvernement fédéral qui, quand avait été lancé, était supposé coûter une affaire comme 2 millions. Puis à la fin, quand on a tiré la plug sur le projet, on était rendu à plus d'1 milliard de dépenses dans ce projet-là. Donc, au fédéral, on en a vu de toutes les couleurs à toutes les époques. Mais là, dans ce cas-ci, c'est le fameux projet qui a été lancé en 2017. Donc, Curam, pour ceux qui ne savent pas, puis moi, je n'étais pas du tout au courant auparavant, là, mais essentiellement, c'est un logiciel qui gère toutes les prestations essentielles pour l'assurance emploi, pardon, pour le régime de pension du Canada, puis pour la sécurité de la vieillesse, en plus de plusieurs suppléments de revenus garantis. Donc, vous comprendrez que ça touche quand même des dizaines de millions de personnes. Et là, ils se sont dit, bon, on va le moderniser, essentiellement, un peu comme ils ont fait avec Saclic. Ils avaient budgété 1,75 milliard. Puis là, ils disent que finalement, d'ici 2030, selon le vérificateur général, ça va coûter 6,6 milliards. C'est 4 fois plus que ce qui était prévu. Donc, nous, on sentait très mal avec Saclic, avec toutes les raisons du monde, ceci étant dit. Mais on était pas à la même place. On avait un dépassement de coût de 500 millions, ce qui est à peu près 100 % de la facture. Et là, bon, on est rendu à un dépassement de coût de quasiment 400 % pour le projet de Curam, qui n'est pas tout à fait complété. On parle de retard aussi, là, qui énormément de choses qui se passent au niveau des problématiques d'intégration. Puis au final, ben, je veux dire, on a très, très peu de transparence à ce niveau-là. Puis oui, c'est drôle parce qu'au fédéral, on a l'impression que vu que c'est à l'autre bout, vu que c'est vraiment un palier gouvernemental avec lequel on interagit très peu, on se doute que c'est pas la fin du monde si il y a des, comment dire, des petits dépassements de coûts, ils ont plus d'argent, ils ont plus de budget, mais à la fin de la journée, je suis persuadé que QRAM, de un, c'est la pointe de l'iceberg. Je suis persuadé qu'il y en a d'autres informatiques de ce type au fédéral. Puis c'est comme ça nous faisait oublier tous les autres problèmes informatiques qu'on a au Québec en même temps.
Y a-t-il quelque chose entre les consultants informatiques puis les politiciens? Y a-t-il quelque chose qu'on comprend pas? Y a-t-il une vase communicant? Je veux m'expliquer ça, là. Je sais pas ce qui se passe. Pourquoi on fait pas des enquêtes publiques là-dessus?
C'est une très bonne question. Je ne sais pas si l'information a été divulguée par rapport au créateur là, ou celui qui est en charge de l'intégration de Curam. C'est-tu IBM? Je ne sais pas. Par contre, ça serait un cas que ça serait pas la première fois. C'est ça. Mais sinon, moi, ce que je veux dire là-dessus, c'est essentiellement que le gouvernement fédéral, il dépense déjà beaucoup trop d'argent pour payer des consultants là, à l'extérieur de la fonction publique fédérale. La facture, juste en consultant annuellement, c'est pas loin de 20 milliards de dollars qu'on dépense là, pour payer des consultants externes. Donc, il y a une influence notable de la part des sous-traitants auprès du gouvernement fédéral.
Et auprès des consultants. Si moi, je travaille avec un consultant, on le veut que ça clique, là, le consultant.
Bon, oui,
lui, il travaillait avec des firmes informatiques qui étaient bien ciblées. Là. Fait que lui, si tu prends le consultant, ben c'est sûr qu'il va pousser les produits de l'autre. Il doit avoir une cote à quelque part, là, je sais pas.
Exactement. Donc là, maintenant, est-ce qu'il y a des stratagèmes qui sont mis en place? Là, par exemple, je peux pas vraiment m'avancer. Bien, une chose est sûre, par exemple, c'est qu'il y a une influence omniprésente de ces mêmes consultants qui d'un, profitent de contrats extrêmement lucratifs de la part du gouvernement fédéral. Un gouvernement qui a de la difficulté à faire le suivi par rapport aux projets informatiques parce qu'il n'y connaît absolument rien. Puis donc, automatiquement, on a des consultants de toutes sortes, de toutes les compagnies, SAP, LGS, qui s'en permettent.
Toutes là.
C'est ça. Essentiellement, je veux dire, est-ce qu'il y a nécessairement une gimmick ou c'est simplement que les gouvernements ont compris, que les entreprises ont compris à quel point le gouvernement est incompétent pour faire le suivi de ses propres projets informatiques? On l'a vu à plusieurs reprises au courant de l'histoire, tant au niveau provincial que fédéral. Et là, ils disent, dans le pire des cas, on peut les aider face à leur propre incompétence, mais ça va coûter quelque chose. Il va y avoir un prix à cette facture-là. J'ai très hâte de voir ce qu'on va apprendre au niveau du projet Curam, mais une chose est sûre, on n'a pas fini d'en voir de toutes les couleurs là, avec les projets informatiques, tant au Québec qu'à Ottawa.
Oui, c'est ça. Et tu me dis, le salaire de la gouverneure générale, ça continue de monter.
Oui, bien, ma grande chum, Mme Mary Simon, nous, à la Fédération, on se fait un genre de devoir depuis les années 90 de faire un suivi sur l'évolution des privilèges du salaire du gouverneur général, peu importe qui est dans cette position-là. Et là, on a appris récemment que le salaire de Mme Mary Simon avait augmenté de 15 800 $ pour l'année 2026. Donc, ce qui amène son salaire, finalement, à la modique somme de 393 800 $ c'est presque 400 000 pour un poste qui est extrêmement symbolique et qui apporte à peu près rien pour les contribuables qui payent le salaire. Puis, juste à titre de comparaison comme ça, 15 800 $ c'est l'équivalent de ce qu'une famille de 4 personnes au Canada va dépenser en épicerie pour l'année 2026. Donc, ça, c'est l'augmentation de salaire à laquelle
elle a droit. Elle est logée, nourrie. Quand elle sort en avion gouvernemental, puis les traiteurs, on a vu ça, les dépenses, là, ça revole, là.
Ben exact. C'est pas comme si elle n'avait pas de privilèges déjà intéressants. Elle a accès à Rideau Hall, qui est littéralement un manoir avec des serviteurs et chauffeurs et cuisiniers et tout le kit. Et ça, pour la durée totale de son mandat de 5 ans. En plus, elle peut se permettre des voyages à l'étranger, ce qui fait aucun sens parce que, bon, disons-le franchement, le Canada, c'est pas comme si on n'avait pas déjà un appareil diplomatique pour faire toutes les relations avec tous les autres pays qu'on a de besoin.
Ah oui, diplomate, au lieu d'envoyer Mme Simon, là.
Ben c'est ça, Mary Simon, à la limite, le seul pays ou le seul endroit que je m'imagine que pour aller à l'extérieur du Canada, c'est à Londres pour aller rencontrer le roi. Parce que c'est
lui qui a fait raison. Ça nous coûte cher, ça, ces patentes-là, non?
Oui, ben exactement. Puis ça s'arrête pas là, parce qu'une fois que Mme Mary Simon va quitter son mandat, puis ça, pour l'instant, on s'attend. Ben moi, je crois que c'est cette année. Elle a été en fait nommée en 2021 après la défaite là, de départ de Mme Julie Payette. Oui. Donc là, on arrive à la fin de son mandat de 5 ans. Et à la fin de son mandat de 5 ans, qu'est-ce qui se passe avec Mme Simon comme avec les autres gouverneurs généraux? Ben, elle peut empocher une pension à vie de 150 000 $ par année à vie. Puis en plus de ça, elle a droit à un compte de pension, un compte de dépenses de 206 000 $ par année à vie.
En plus?
Jusqu'à... La cerise sur le Sunday, jusqu'à 6 mois après son décès. Donc, oui, vous avez bien compris. Hein? Elle a accès à un compte de dépenses de 200 000 $ par année à vie, en plus de sa pension à vie payée en salaire. Et ce compte de dépenses est accessible à sa succession dans le cas de son décès, jusqu'à 6 mois après son décès. Donc, c'est un privilège assez honorifique là, pour quelqu'un qui, comme je dis, qui a un poste qui est très symbolique d'un point de vue tant constitutionnel qu'à tous les niveaux. Pour quelqu'un qui distribue des médailles, là, je veux dire, une fois de temps en temps, puis qui fait des discours qui ont été écrits par 4 autres personnes. Et donc, je veux dire, c'est pas mal le coût, c'est pas le coût total de la monarchie au Canada, mais c'est le coût pour cette fonction-là précisément. Et nous, ça nous permet justement de rappeler, considérant qu'il va y avoir un changement de garde, cette année, on s'attend à un nouveau gouverneur général qui va la remplacer, que peut-être que le gouvernement fédéral, si, surtout Mark Carney, s'il est sérieux par rapport à la rigueur budgétaire, qu'il commence à couper à quelque part dans les autres structures, ne serait-ce que pour envoyer un signal. Nous, on le rappelle, là, à chaque fois qu'il y a eu une véritable rigueur budgétaire à Ottawa, ça a commencé par des gels ou des coupures de salaire pour les députés. C'est symbolique, mais ça indique qu'il y a un vrai changement qui se fait, changement de culture. Puis pour l'instant, on l'attend à Ottawa.
Non, moi, je vois rien de ça. Au contraire, tu as vu un déficit de quoi? 90, 100 milliards, c'est pas. Ça va être de même, puis on taponne en plus d'un énorme comptable. Pas de répit pour les contribuables. Nicolas Gagnon de la Fédération des contribuables. Merci beaucoup, puis je pense qu'on s'en reparle. Là. Il y a trop d'ouvrages. Mais tu sais, il faut quand même dénoncer ces niaiseries-là. Là.
Oui, il faut continuer absolument. Puis je veux dire, il y a quand même de l'espoir pour les contribuables. Nous, ce qu'on martèle, c'est que malgré tout, il y a des élections qui s'en viennent en 2026. C'est l'occasion ou jamais de faire pression sur les politiciens, que ce soit sur ceux qui vont succéder à François Legault là, dans les prochaines semaines à la course à la chefferie, ou sinon que ce soit en fonction des élections d'octobre. Il y a une opportunité, il y a une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre pour les contribuables. Donc, attendez-vous à ce qu'on martèle le message là, pour s'assurer ce qui passe là, d'ici les prochaines élections.
Super, merci beaucoup, Nicolas. À la prochaine.
C'est toujours plaisir. À bientôt.
À bientôt. Nicolas Gagnon, les contribuables. C'est pas facile, hein, la job qu'il fait. Lui, il dénonce tout ça. Ils sont organisés, là. Ils ont quand même une organisation pan-canadienne. Ils sont au Québec. Lui, c'est le porte-parole québécois, mais ils ont une organisation aussi au Canada anglais, du côté d'Ottawa.
Oui.
Les autres, ils se débattent comme des diables dans l'eau bénite.
Le gouverneur général, ça coûte cher en tabarouette.
Hey, mais tu veux le salaire? Ça, c'est à part toutes les dépenses de la patente.
Mais pas simple là, d'abolir ça.
Ben non, mais faudrait.
C'est parce que là, c'est dans la Constitution, donc il faudrait une unanimité de toutes les provinces pour modifier la Constitution. Mm. Pour un rôle qui est très, très, très symbolique.
Elle parle même pas français.
En plus.
Elle n'est même pas capable de comprendre ce qui se passe au Québec.
Moi, je t'enlèverais ça.
Elle parle comme... elle prend des cours, elle a de la misère. Mmh. Là.
Bon.
Hey, je comprends pas. Tu prends des cours d'une langue. C'est pas long, là, à un moment donné. Tu prends une application, puis tu dis, je vais jaser un peu. C'est comme les joueurs du Canadien qui sont pas capables de parler français. Voyons donc. C'est une joke, là. Je veux dire, on peut apprendre n'importe quelle langue en... au moins des phrases qui se tiennent.
Écoute, on paye.
Voilà.
Beaucoup de salaire.
Après la pause, Rodolphe Osni débarque dans le show.
Couture dans le mid. Radio X.